Alors, Carl, ben faisons-le, le bilan chez nous, parce que c'est pas comme l'Ontario. Nous, on est... Ça reste stable. À chaque jour, on a un peu peur que le ciel nous tombe sur la tête, mais ça reste stable.
Avec 1527 nouveaux cas aujourd'hui et 7 de ceux supplémentaires, et il y a le tiers environ de ces cas-là, soit 294 et 204, ensemble ça fait 500, là, dans la grande région de Québec. Donc, on sait que la situation est préoccupante en Beauce. Ça le demeure, mais pas d'augmentation soutenue des cas au fil des jours dans la dernière semaine, comme on l'a vu en Ontario. Et ça, c'est rassurant, évidemment, ouais. Mais bon, faudra composer.
Puis Montréal, Laval, Rive-Sud, pas d'augmentation. Quelqu'un disait, je me sais plus c'est qui sur les réseaux sociaux ce matin, puis je trouvais que c'était une bonne réflexion. Il disait, tu sais, on se tape dessus, on parle des régions où ça va mal. Puis la personne disait, mais pour le Grand Montréal, là, c'est quasiment un exploit.
T'sais, ah oui.
C'est un exploit qu'on devrait applaudir. La réussite du Grand Montréal, alors que ça monte, et à Toronto, le nombre de cas a quadruplé, à Ottawa, partout autour. Il y a quand même, faut quand même féliciter les gens du Grand Montréal. Il y a quelqu'un qui fait attention à quelque part, là. C'est pas parfait, mais c'est...
Et la vaccination fonctionne, c'est-à-dire que les populations vulnérables qui ont été vaccinées, il y a une diminution de la transmission dans des quartiers, par exemple, moins favorisés, beaucoup de travailleurs de services de première ligne. Donc, au moins, il y a ça qui est encourageant. Et aussi, on n'a pas retourné en arrière. Évidemment, on a rabaissé le couvre-feu à 20h. Je dois avouer, Mario, que moi, je t'ai rendu jamais ça, ma petite marche passée 8h.
Ah oui.
Mais...
Ça te prend un chien.
Je suis en attente comme plusieurs personnes pour en avoir, tout de même, ça pinçait un peu le cœur de reculer comme ça, sauf que les restaurants étaient déjà fermés.
C'est juste pour la marche, parce que il y a plus grand-chose à aller faire. Patient à l'urgence de l'hôpital Santa Cabrini là, qui a vécu les contre-coups de la COVID.
C'est pas facile à l'urgence de l'hôpital Santa Cabrini. Il y a des patients qui ont attendu jusqu'à 200 heures sur une civière avant d'être pris en charge. Il y a une infirmière qui s'est confiée au Journal de Montréal de manière anonyme. On donne des soins de brousse aux patients, a-t-elle affirmé. Et parmi les pires cas, il y a une patiente qui avait passé 216 heures. Ça, c'est 9 jours sur une civière à l'urgence.
Il faut se rappeler qu'une semaine, c'est quoi? C'est 196 heures?
C'est ça. Là. C'est long. Et l'urgence, avec le néon qui scintille en haut de toi. Donc, c'est pas évident. Pas de bain, pas de changement de sous-vêtements, ni de brosse à dents. Même un chien n'aurait pas aimé ce traitement-là. Et le président du syndicat local, Denis Gloutier, dit, écoutez, 9-10 jours couchés sur un petit matelas de 2 pouces d'épais, moi, ça me choque. Évidemment, la situation est difficile. Il déplore que 4 à 7 infirmières font du temps supplémentaire obligatoire depuis plusieurs semaines et l'hôpital est aux prises avec une éclosion depuis le 6 avril dernier. Donc, évidemment, pas une situation facile à l'hôpital Santa Cabrini comme dans plusieurs autres hôpitaux au Québec également.
Les experts continuent de s'intéresser à la campagne de vaccination. Il y en a qui disent qu'il faudrait être plus agressif à vacciner la population active, les gens qui travaillent, qui circulent beaucoup, qui sont susceptibles d'être des transmetteurs.
Voilà, parce que ce sont eux qui transmettent le virus, oui, et c'est ce que pense l'épidémiologiste, oui, Nima Machouf. Il faut accélérer la vaccination dans la population active. Donc, idéalement, pas attendre à la fin mai pour se lancer dans cette campagne-là. Puis on le voit aussi dans les centres de vaccination qui sont déserts, il y aurait probablement de l'intérêt pour des gens qui ne sont pas dans les malades chroniques ou plus de 55 ans qui pourraient être disponibles.
On le fait un peu quand même parce que les groupes prioritaires sont quand même des, tu sais, les enseignants, voilà. Les gens des garderies, sont quand même des gens qui voient beaucoup de monde. Là, ça, c'en est, ouais. Qu'on vaccine de ces gens qu'on pourrait dire très actifs, là, des policiers, même chose.
Et ce qu'elle dit, Mme Machouf, c'est justement s'il y a un essoufflement dans cet intérêt-là pour le vaccin d'AstraZeneca, ça démontre peut-être qu'il faut faire plus de sensibilisation et rassurer la population sur l'utilisation de ce vaccin-là qui est sécuritaire, et on le sait, là, pour les personnes de plus de 55 ans. Pas recommandé pour les personnes de moins de 55 ans, mais tout de même. Puis moi, je te le dis, Mario, si quelqu'un me disait, là, j'étais dans un stationnement, veux-tu te faire vacciner? Ben j'irais certainement parce que on peut sauver des semaines importantes et tu te dis, bon, ben au moins...
La première journée de la vaccination aux États-Unis, il y avait un gars de 20 ans qui avait fait les nouvelles un peu à grandeur du pays parce que dans une pharmacie, je sais plus trop où il y avait vraiment resté une dose de vaccin qui allait se perdre à la fermeture. Le jeune était allé in extremis acheter je sais pas quoi avant de se coucher, là, des pilules ou des condoms.
Puis il y en a pris un.
Non, puis là, ils ont dit, écoutez, là, faut trouver quelqu'un à vacciner. Puis ils disaient, moi, je suis prêt.
Ben oui.
Le gars avait 20 ans, il était vacciné le jour 1 de la campagne là, pour ne pas perdre une dose.
Et c'est fascinant de voir ce qui se passe aux États-Unis avec la vaccination, Mario. Et tu sais, les digital nomades, les travailleurs informatiques qui peuvent travailler n'importe où, il y a un mouvement de gens qui vont dire, ben, je vais y aller au Texas, moi, me faire vacciner. C'est pas très cher, le vaccin, d'abord, de toute façon. Donc, si t'as les moyens de travailler n'importe où et de faire une quarantaine, ben, tu y vas. tu reviens, tu fais tes 40 ans, il n'y a pas de problème, et tu es vacciné. Donc, il y a quelque chose là qui est intéressant. Ouais. Faut avoir les moyens, évidemment, de tous payer ça.
Ici, c'est un peu plus rigide.
Un peu plus, oui.
Des nouvelles, on a parlé du vaccin Pfizer, le Canada, qui va en recevoir là, 8 millions de plus, mais il y a d'autres sujets au sujet de Pfizer, d'autres enjeux, notamment le prix.
Oh mon Dieu.
Le président de Pfizer qui tient son bout, là, que le vaccin, il ne le vend pas trop cher, mais dans le monde, c'est sujet de débat, là.
Écoute, Mario, le vaccin s'est vendu à 12 euros et passé à 15 euros, et là, il est en moyenne à 19,5 euros, donc c'est assez cher. Et le grand patron de Pfizer a dit, écoutez, ben, les vaccins ont un prix inestimable, donc c'est ça que ça vaut. Je pense que la population va être gagnante d'avoir ce vaccin-là. Et le PDG de Pfizer disait aussi, ben là, à ce prix-là, ça sera totalement inabordable pour les pays en Afrique, par exemple. Ben, disons, on fera un meilleur prix. Par contre, il y a un enjeu qui fait qu'on risque de ne pas utiliser beaucoup le vaccin de Pfizer en Afrique, c'est que ça prend le fameux congélateur à moins 72.
Exact.
C'est la raison pour laquelle ce vaccin-là se ramasse pas.
Peut-être
en
dans certaines villes d'Afrique, le plus équipé, plus utilisé, mais dans les campagnes africaines, d'après moi, tu iras pas avec le Pfizer. Là.
Donc, on ne sait pas s'il y aura beaucoup de vaccins de Pfizer qui se rendront, mais évidemment, le patron qui défend ça, mais évidemment, ça fait sourire jaune un peu. Et puis, il y a d'autres vaccins en Europe qui sont accessibles à des prix beaucoup plus...
En partant, l'AstraZeneca, ils n'ont pas le droit de faire de profit, là, parce que l'entente... Ouais. L'Université Oxford a fait une entente avec le fabricant AstraZeneca, parce que l'Université Oxford, elle voulait que c'était son savoir, c'était ses universitaires, c'était sa recherche, mais voulait que ça devienne une espèce de bien pour l'humanité.
Ben voilà.
Fait que dans le fond, le gain d'AstraZeneca, c'est bon, peut-être que pour financer le vaccin, ils vont construire des usines, etc., mais sur la vente de chaque vaccin, ils n'ont pas le droit de faire du profit.
Et je te soumets ça en toute humilité. Est-ce que Pfizer aurait pu justement faire la même chose? Ils sont pas dans la rue. On jase.
Mais bon. Mais là, ce compte-là, Moderna, eux vont dire, faut financer notre recherche, etc., là. Mais c'est juste, c'est la différence entre faire ce qu'on appellerait un profit raisonnable pour se récompenser de sa recherche et de ses opérations, puis faire un profit exagéré qui donne une petite odeur au monde que tu profites de la situation d'urgence.
Ben, c'est ça. Il y a une situation d'urgence, il y a une pandémie. Là, tu dis, est-ce qu'on peut couper la poire en deux? Parce que nécessairement, à ce prix-là, on attend, là.
D'ailleurs, le patron de Pfizer qui a ouvert sur un sujet qui va devenir d'actualité après la campagne de vaccination actuelle. Lui a parlé d'une troisième dose de Pfizer, mais on sait que c'est un débat qui va venir là, avec les variants, avec le besoin d'un rappel.
Mais on ouvre la porte et le directeur de la cellule anti-COVID de l'administration Biden aux États-Unis a lui aussi assuré que ça se pourrait que les Américains doivent recevoir une troisième dose du Pfizer. On le sait pas à ce moment, mais évidemment, il y a la donnée des variants qui pourraient venir influencer. Et ça pourrait
Moderna a été plus clair. Moderna a dit, nous, on est déjà en recherche pour développer un vaccin qui va couvrir les variants.
Ouais.
Et donc, on comprend que si les variants deviennent... Écoute, si les variants se calment, on n'aura pas besoin, mais si la probabilité, c'est que les variants vont rester dans le décor puis qu'on va souhaiter avoir cet autre vaccin peut-être l'année prochaine, peut-être en 2022. Le Pfizer, c'est moins clair. Est-ce que c'est pour un boost ou est-ce que c'est un boost pour les variants?
Et dans la discussion aussi, est-ce qu'une vaccination du Pfizer pourrait être nécessaire chaque année? Et quand on parlait de cette usine là, qui sera de Novavax, qui sera inaugurée en juillet 2022 à Montréal, mais dès le départ, on se dit, mon Dieu, ça va être trop tard. Ben peut-être pas, justement, parce que il y a une inconnue qui demeure. La campagne de vaccination, on est dans le gros crunch de la première vague, mais on n'a aucune garantie sur la suite des choses et faut peut-être s'habituer justement à ces campagnes-là pour un certain temps parce que, ma foi, c'est un virus qui s'adapte énormément.
Ouais, mais d'autant plus que je me rappelle de cette carte du monde qu'avait fait The Economist en début d'année là, sur leur probabilité de vaccination, les modèles de vaccination. Et dans leur esprit, la première vague de vaccination, là, je parle pas, il y a certains pays pauvres où elle était pas finie avant l'hiver 2023.
Voilà.
Ça, c'est la première dose. C'est la campagne dans laquelle nous, on est présentement, là. C'est pas tous les pays. Présentement, il y a un paquet de pays où c'est pas commencé. En Afrique, là, des pays qui ont vacciné à 2-3%, puis d'autres à zéro, là.
Oui, et puis beaucoup de pays aussi et même quand on peut se questionner des fois sur la viabilité des données qu'on a au Canada, savoir est-ce que c'est bien représentatif de la situation sur le terrain. Il y a beaucoup de cas. Évidemment, il y a un délai dans la machine, parfois, pour avoir ces chiffres-là. Mais il y a des pays où la structure gouvernementale du réseau de santé est moins performante, bien qu'on, on n'a pas l'impression de toujours rouler en Cadillac ici, là, mais par exemple, hier, on parlait du Cambodge où il y a juste 35 décès officiellement répertoriés de la COVID. Tenir des données sur la vaccination là-bas, et on n'est pas rendu là. Donc, 2023, fin de la première vague de vaccination, ça, si on est pessimiste, ça veut dire que ça va circuler encore longtemps après. Là.
Ouais. Il y a eu un cas, certains vont dire c'était sûr que ça allait arriver un jour, mais un cas de vol, un premier cas de vol ou de tentative de vol de vaccin, ça s'est passé dans la région de la Lanaudière.
La police de Repentigny qui a ouvert une enquête, il y a un individu qui s'est présenté à une pharmacie Jean Coutu lundi soir, peu avant la fermeture, et il s'est présenté, il a dit je suis un employé d'une compagnie de sécurité, je dois avoir accès à tous les vaccins pour faire une analyse. Mais ben là, évidemment, au comptoir, on a trouvé ça louche. Et j'en parlais un peu plus tôt avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires qui disait...
Surtout le gars avec quoi? Une tuque, des expos, puis des bas pas pareil.
Pas à ce point-là, mais c'est sûr que... Je venais pas porter le journal, mais bon, c'est ça. Ça me fait penser au personnage de l'humoriste.
Ouais, ouais.
Mais... généralement, justement, les pharmacies sont habituées. Les vaccins, ça devient une matière qui a beaucoup de valeur. Et évidemment, on a des médicaments qui ont beaucoup de valeur aussi. Donc, on est habitué à certains protocoles. Donc, quand cet individu-là s'est pointé, on savait qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Sa Honda Civic stationnée en arrière était pas réglo. Donc, la police a été appelée. Bon, il semble qu'il y a peu de cas de ça, mais la police enquête. Puis évidemment, là, tout ça, toutes les doses...
il n'a pas volé de vaccin.
Il n'a pas réussi. Il s'est présenté, mais ça n'a pas fonctionné.
Comme on dit, un gars s'essaye, mais cette fois-là, ça n'a pas fonctionné. La loi sur la laïcité, bien, on attend une décision mardi.
Voilà, c'est une décision qui est très attendue. On sait la loi sur la laïcité, la loi 21 qui a été portée en appel. Et donc, un peu que je retrouve ma note là-dessus, mais...
En fait, c'était tout au long de l'automne, voilà. Débattu devant la cour. On attend un jugement là-dessus.
Et peu importe la décision, ça va aller en appel, on est pas mal certain.
Ça sera en Cour suprême, personne n'a de doute là-dessus, mais quand même, ça va être un gros jugement que celui-là. Là.
On attend ça mardi, évidemment, et c'est le magistrat lui-même, là, qui le juge Marc-André Blanchard, qui a reconnu là, que ça risque fort de se retrouver devant la Cour suprême. Donc, on verra, mais ça, c'est des mois et des mois de procédure également.
Mais un jugement ou l'autre, ça va se rendre à la Cour suprême, mais un jugement ou l'autre, ça va faire des nouvelles aussi. Là. Ça veut dire ça va être une grosse nouvelle, une grosse victoire pour le gouvernement du Québec ou une grosse défaite. Là.
Ouais.
On va surveiller ça, mais tout de suite, on va aller parler économie.